Artisans de paix. Artisans de paix, une réflexion autour de la non-violence, guidée par Yves Ardourel.
Une manifestation pacifiste a été autorisée pour la première fois à Tel Aviv, en Israël. Alors que l'armée israélienne dans la bande de Gaza a déjà fait plus de 16 000 morts, des civils palestiniens en majorité, qu'il y a près de 2 millions de déplacés, bien peu de voix pacifistes arrivent à se faire entendre en Israël. Dans un pays traumatisé par les attaques du 7 octobre par le Hamas, la police et la population rejettent toute expression pacifiste. Cependant, pour la première fois, le 5 décembre, une cinquantaine de personnes ont pu manifester à Tel Aviv, devant le ministère de la Défense, sans être dispersé par la police. C'est ce que relate la journaliste Camille Magnard sur France Info. L'appel a circulé très vite, dans le petit réseau des professeurs d'université de gauche. Pas de communication à la presse, pas de déclaration à la police et pas de slogan crié pour ne pas s'attirer des ennuis. Les précédentes tentatives avaient fini en garde à vue. Cette fois, la police se tient à distance et on entend quelques klaxons de soutien. Les manifestants déclarent qu'ils comptent bien revenir chaque semaine jusqu'à la fin de la guerre de Gaza. Et dans le monde, les appels se multiplient. Mercredi 6 décembre, le secrétaire général de l'ONU tente de pousser le Conseil de sécurité à se prononcer sur un cessez-le-feu à Gaza. Mercredi 6 décembre, toujours le Comité international de la Croix-Rouge, qui réitère ses appels inlassablement depuis le début du conflit, déclare « Le niveau de souffrance humaine est intolérable ». Et nous, de quel message serons-nous porteurs ? Aujourd'hui, c'est une grande joie que d'accueillir José Resson. José Resson est diacre au diocèse de Toulouse et on s'est rencontrés dans les années 70 au sein d'une association qui s'appelait, je crois, le 103. Bonjour José.
Bonjour Yves.
Je crois qu'il y avait une expérience d'objecteur de conscience à ce moment-là.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que c'était et est-ce que c'était important?
Oui, c'était le refus d'un service militaire, le refus d'une certaine violence. Et puis, ça a été un peu sportif parce que c'est le moment où Georges Pompidou a décidé que les objecteurs n'iraient plus travailler dans les associations, mais qu'ils iraient dans les eaux et forêts. Et alors, on était tout un groupe à refuser. Moi, j'étais déjà engagé auprès de jeunes de la cité de la briqueterie, de jeunes immigrés, de cette cité qu'ils appelaient la cité des rats, parce qu'il y en avait pas mal dans les caves. Donc j'étais engagé auprès d'eux, et j'ai décidé de continuer, et de ne pas aller dans les eaux et forêts.
Et donc de devenir insoumis.
Voilà, tout à fait.
Avec un procès.
Oui. Un procès dans lequel, surprise, Georges Pompidou est mort 8 jours avant le procès. Donc j'étais amnistié.
Mais le procès a eu lieu avec, je crois, la participation de Jean-Marie Muller, que l'on a eu l'occasion de présenter cette émission.
Pas mon procès à moi, non.
D'accord.
Il y a eu des procès, oui. Oui, oui, plusieurs. Mais moi, j'étais amnistié.
D'accord. Et cette expérience, donc, de jeunesse ça marquait quand même tout un engagement de vie.
Oui, ça marquait un engagement, et d'autant plus que pour moi, c'était une période difficile, par la menace de prison, bien sûr, mais aussi d'autres difficultés. À la briqueterie, j'avais du mal avec ces jeunes plus ou moins délinquants. Un moment où j'ai eu un problème au genou, paralysé, diverses choses. Et ça a été finalement l'occasion de ma conversion. C'est là que j'ai découvert le Seigneur, qui m'a rencontré dans ma chambre.
D'accord. Voilà. Après, alors, en relation quand même avec cette expérience de vie, ce refus de l'armée, ce refus
bien sûr,
de la guerre,
oui.
Qui s'est développé dans une conversion et donc un engagement encore plus fort.
Oui. Et puis j'ai eu rencontré pas mal de personnes qui ont été blessées par... qui ont été militaires, qui ont été écrasées. Je me rappelle en particulier d'un... Quand j'étais à Paris, je faisais un stage pour mon école. Je me promenais dans la rue, j'ai rencontré un monsieur qui se saoulait tous les soirs en pensant à ce qu'on lui avait fait faire. Il était dans un hélicoptère et il devait jeter par la porte les félagas dont on voulait se débarrasser. Et cet homme, tous les soirs, il avait ces images qui lui revenaient et il se saoulait pour oublier. Et recommencer tous les soirs. Voilà, c'est des choses qui m'ont marqué. D'autres rencontres aussi, un peu du même genre. Des jeunes qui ont été vraiment, vraiment blessés profondément.
Au fond, la guerre, ça ne blesse pas, ça blesse celui qui...
Ça blesse celui qui reçoit la balle et ça blesse celui qui l'envoie. Ah oui, très fort. J'ai senti ça très fort à travers beaucoup de rencontres. Oui.
Et donc
un légionnaire particulier, ouais. Michel, légionnaire à qui on a fait tuer des femmes et des enfants. Et il buvait, pareil.
C'est des témoignages rares, ça. Parce que c'est pas en général ce genre de témoignage quand on parle de la guerre. On insiste sur la figure du héros,
oui.
De celui qui se sacrifie.
Oui, malheureusement, des épaves, il y en a aussi pas mal. Même s'ils sont plutôt sous les ponts que sous les feux des projecteurs, il y en a pas mal.
Et cette question, non, par rapport à la guerre, par rapport à l'armée, par rapport à l'engagement militaire, c'est pas un sujet actuellement, puisqu'il n'y a plus de service militaire, mais bon, il y a une banalisation de la guerre, et voilà, il faut, oui. faut augmenter les armements. Vous restez toujours mobilisé sur cette question-là, attentif. Vous avez un regard
toujours,
particulier.
Toujours. Je prie pour la paix tous les matins. Je pense à tous ces gens qui sont sous les bombes, qui sont ou qui perdent des proches. Ça, c'est dur à vivre.
Et peut-être juste pour terminer ce lancement d'entretien, comment jugez-vous la façon dont on parle de la guerre, qui est présente actuellement fortement?
Oui. Oui, aujourd'hui, c'est un côté spectacle qui est vraiment tordu.
Au fond, avec une sorte de banalisation. Et,
oui.
Et peut-être, c'est difficile de dire que l'on veut la paix, que l'on veut un cessez-le-feu. On est souvent mal compris.
Oui, moi je regarde les victimes, pas seulement de la guerre, mais aussi les victimes de violences, de personnes qui ont été agressées sexuellement. Voilà, je fais partie d'une association aussi qui... Moi, je l'ai été. Je sais ce que ça a fait dans ma vie, tout ce que ça a détruit dans ma vie. Et je vois chez d'autres tout ce que ça démolit. Violence sous différentes formes, toujours destructrice.
D'accord. Eh bien, c'est justement... On va continuer ces entretiens la semaine prochaine, la semaine d'après, dans ce temps de Noël. Merci, José Resson, et donc à la semaine prochaine.
À bientôt.
Le 17 octobre 1979, Mère Teresa reçoit le prix Nobel de la paix pour son action qui aide à combattre la pauvreté et la détresse, des fléaux constituant des menaces à la paix. Mère Teresa a été canonisée par l'Église catholique comme Sainte Teresa de Calcutta. C'est une religieuse albanaise naturalisée indienne. Elle est née en 1910 à Skopje et morte le 5 septembre 1997 à Calcutta. Elle est connue pour son action caritative et pour la création de la fondation d'une congrégation religieuse, les Missionnaires de la Charité, qui suivent son exemple. Elle a fondé sa congrégation en 1950. Son œuvre auprès des plus démunis commence par l'éducation des enfants des rues et l'ouverture du mouroir de Kalighat à Calcutta. Pendant plus de 40 ans, elle consacre sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés-pour-compte et aux mourants, d'abord en Inde, puis dans d'autres pays. Son action la plus emblématique est peut-être la création du mouroir de Caligat. Après avoir vu un mourant, la religieuse l'amène à l'hôpital, mais l'établissement refuse de le prendre en charge. L'agonisant meurt sans avoir été accueilli. Elle décide alors de s'occuper des mourants et demande un lieu à la mairie de Calcutta qui lui offre un local à Caligat, proche du temple à la déesse hindoue Kali. Les sœurs amènent les mourants les plus pauvres et les soignent avec des moyens rudimentaires. À partir de ce prix Nobel de la paix, sa vie devient très médiatisée et elle se retrouve au cœur de situations très diverses. En 1982, lors du siège de Beyrouth, au Liban, Mère Teresa sauve 37 enfants hospitalisés pris au piège dans une ligne de front entre l'armée israélienne et la guérilla palestinienne. Elle provoque un cessez-le-feu et, accompagnée par la Croix-Rouge, elle traverse la zone de tir jusqu'à l'hôpital dévasté pour évacuer les jeunes patients. En 1984, elle vient assister les victimes de la catastrophe de Bhopal, quelques jours après le désastre. En 1985, elle reçoit de Ronald Reagan la plus haute distinction américaine, la médaille présidentielle de la liberté. La même année, elle crée à New York le premier foyer pour les victimes du sida. C'est une vie ouverte au monde. Elle meurt à Calcutta le 5 septembre 1997. Le gouvernement indien déclare un jour de deuil et, en rupture avec la tradition, organise des funérailles nationales le 13 septembre. Vraiment, une vie offerte au monde.